Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
De nombreuses légendes circulent sur la ville de Toulouse, certaines contenant un semblant de vérité, d'autres parfaitement farfelues. Ainsi, Noé serait le fondateur de la ville. La mythique Clément Cizor aurait créé les Jeux Floraux au Moyen-Âge. Et le quartier de la Patte-Bois doit son nom à la fille d'un certain Marcellus, roi wisigoth. Cette jeune fille douce, bonne et modeste était affligée d'une lèpre qui aurait transformé son pied en patte-d'oie, un pied palmé donc. D'autres légendes encore, dont celle-ci. La basilique Saint-Sernin aurait été bâtie sur un lac. Arrêtons-nous là, car cette dernière légende, si elle est inexacte, relève de faits véridiques. Le fameux Or de Toulouse, caché dans des lieux sacrés, lac ou marécage, puis volé, qui connut un incroyable périple. Pierre Moret nous en compte les faits avec beaucoup de prudence, car ces faits sont lointains et les traces pour la plupart effacées. Main basse sur l'Or de Toulouse est un ouvrage court mais dense, paru aux éditions Midi-Pyrénéennes dans la collection cette année-là. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir son auteur. Pierre Moret, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes aussi membre du laboratoire Traces. Alors, on connaissait évidemment ce prestigieux organisme national qui est le CNRS, mais je connais moins le laboratoire Trace. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un laboratoire d'archéologie qui est installé sur le site de Toulouse, le Mirail, enfin de l'Université Toulouse Jean Jaurès. C'est un assez gros laboratoire, parmi les plus gros laboratoires d'archéologie en France, qui rassemble en fait pratiquement tous les chercheurs et enseignants-chercheurs de la place toulousaine qui pratiquent l'archéologie, du paléolithique le plus ancien jusqu'au Moyen-Âge le plus récent.
D'accord.
Donc on a une très large palette de...
Sur le territoire français ?
Pas seulement, on a beaucoup d'activités à l'étranger, beaucoup en Afrique. Afrique du Sud en particulier,
ah, oui.
Mais pas
oui.
Seulement, également au Tchad, et en Afrique de l'Ouest. Il y a une tradition importante de recherche en Afrique, mais pas seulement. Moi-même, la part principale de mes recherches se fait en Espagne et non pas à Toulouse.
Je sens qu'il y aura un autre livre un de ces jours.
Peut-être, mais il sera peut-être moins court. Et voilà.
Oui, d'accord. Alors, j'ai parlé dans l'introduction des difficultés pour les archéologues comme pour les historiens de parler de ce fameux Or de Toulouse que les Toulousains ont entendu parler. Peu de traces. Pourquoi si peu ?
Alors, il y a les traces écrites et les traces matérielles. Si nous parlons des traces matérielles, il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas pour cet or de Toulouse qui aurait été, alors on en parlera sans doute ensuite, pillé par les Romains en 106 avant notre ère.
Voilà,
alors, ce qu'on pourrait dire par une espèce de pirouette, c'est que les Romains l'ont tellement bien pillé, ont tellement bien ratissé, j'allais dire, tous ces lieux humides où étaient... où les Gaulois déposaient cet or sacré, avec l'efficacité bien connue des Romains, eh bien, il n'en est rien resté. Bon, c'est un peu une pirouette.
Ils ont tout nettoyé.
Voilà.
Alors, vous parlez des Gaulois, mais est-ce qu'on dit que la population, ce sont des volques tectosages ? Est-ce que ce sont des Gaulois ?
Alors, grande question à laquelle
je vais vous poser beaucoup de questions.
Oui, bien sûr, mais celle-là est très compliquée. Alors, c'est un petit peu par facilité et pour être court qu'on parle des Gaulois de Toulouse à ce moment de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. En fait, il y avait à ce moment-là à Toulouse une population assez bigarrée, d'après les informations que nous transmet l'archéologie. Déjà, le nom de ces Gaulois, Tectosage, c'est un nom proprement gaulois celtique.
Celtique,
on connaît.
Ah oui.
On devine même son sens, puisqu'on comprend la plupart des racines des noms gaulois, et en l'occurrence, tecto-sage. Sage, c'est rattaché au latin sagas, c'est ceux qui sont sur la piste de quelque chose, qui sont à la recherche de quelque chose. Et tecto, les meilleurs spécialistes, il y a eu plusieurs hypothèses, mais les meilleurs spécialistes pensent actuellement que c'est l'idée de butin, de richesse. Et donc, les tectosages, c'est un nom assez guerrier, assez martial. C'est ceux qui sont en quête de butin, qui se lancent à la guerre pour aller piller ici ou là.
On aurait dû donner ce nom aux Romains.
Tout à fait.
Alors, quel était leur habitat ?
Alors, ces Gaulois, alors, et je termine pour la question précédente. Donc, il y avait des Gaulois, mais aussi d'autres, des populations venues d'autres régions de la Méditerranée et du sud de l'Europe. Il y avait, alors on le sait par des inscriptions qu'on a retrouvées sur des vases de la vaisselle, hein, qui était trouvée en fouille à Toulouse. Les gens écrivaient leur nom pour retrouver leur plat, oui. leur bol. Et on a comme cela des noms en ibère, c'est-à-dire des langues qui étaient à l'époque parlées et écrites au sud des Pyrénées, dans le nord-est de l'Espagne, des Grecs venus de Marseille, très probablement, donc des marchands, des négociants qui s'installaient à Toulouse, et des Italiens. Car avant même la conquête par l'armée romaine, eh bien, comme ça arrive, il y avait un commerce important. Et donc, les avant-coureurs, les premiers présents en Gaule ont été des marchands romains. Et tout ça prouve l'importance du site de Toulouse, qui était un lieu de négoce, d'échange absolument majeur entre, disons, la Méditerranée depuis Narbonne. On rejoignait par terre la Garonne. Et là, les marchandises pouvaient être embarquées sur des radeaux ou des bateaux.
Oui, apparemment, il y avait une activité importante.
Intense.
C'était la fameuse voie romaine.
Alors, la voie romaine a été construite après. Oui. Mais disons qu'il y avait une voie mixte à la fois terrestre et fluviale. Alors, peut-être que l'Aude, le fleuve Aude qui débouche à Narbonne n'était pas très navigable, peut-être sur quelques kilomètres. Et ensuite, c'était une voie de terre jusqu'au Lauragais. Et de là, mais une voie de terre qui existait depuis très longtemps, qui n'a pas été créée par les Romains. Et donc, c'était une communication. Donc, Toulouse était la clé des communications entre la Méditerranée et l'Atlantique par la Garonne.
Oui, ce qui expliquerait, mais on va en parler, de sa richesse aussi.
Absolument.
Alors, on parlera de l'habitat ensuite, finalement. Comment a-t-on appris l'existence de l'or de Toulouse? Par des on-dit?
Alors, on a des textes et il faut bien, un point important à souligner, je pense, c'est que on connaît par leur nom et par l'archéologie des dizaines de grandes cités gauloises. Certains à l'emplacement de grandes villes actuelles comme Paris, Orléans, etc. En revanche, Toulouse est quasiment la seule de ces villes gauloises pour laquelle on a un récit qui à la fois nous décrit ce qui s'y est passé dans le cadre d'une guerre, mais aussi qui décrit certains éléments de la ville, et en l'occurrence un sanctuaire. Et donc ça, c'est extrêmement précieux parce qu'on a, des descriptions par Jules César, des fortifications, des
bourges.
Mais
plus tard,
oui. Mais pour cette époque effectivement assez ancienne, le deuxième siècle avant Jésus-Christ, c'est un cas absolument unique. Mais ces textes sont anciens. Enfin, sont des textes écrits par des auteurs anciens qui n'avaient pas les mêmes préoccupations que nous. Ils n'avaient pas le même sens de ce qu'est l'exactitude historique, etc. Mmh. Et donc, ils sont difficiles à manier et difficiles à interpréter. Donc, c'est le travail des historiens, j'allais dire, depuis des générations, depuis que les premiers érudits toulousains...
Oui, parce qu'apparemment, il n'y a pas toujours eu accord sur certains faits.
Il y a eu de nombreux désaccords. Et encore aujourd'hui... Voilà, les explications que je vais vous livrer ne sont pas forcément partagées par tous mes collègues.
Oui,
et c'est
oui,
le jeu
oui,
de la recherche scientifique.
Ouais. Oui, alors il y a des écrits. Alors j'ai appris qu'il y avait un seul véritable écrit, c'est celui de Posidonius.
Voilà.
Pour moi, je pense aux Posidonies sur l'île de Porquerolles. Posidonius, qui était c'est un témoin presque direct.
Oui. Alors, Posidonius, c'est un grand personnage de son époque, un grand savant, alors un peu oublié parce que malheureusement, à la différence d'autres grands philosophes et savants comme Aristote, dont on a conservé de nombreux ouvrages, Posidonius, tous ses ouvrages sont quasiment perdus, sauf de petits fragments. Il était philosophe, il était astronome, il était physicien, il était quasiment ethnographe, il s'intéressait au peuple dit barbare, mais avec beaucoup de... pas en les méprisant, hein. Et donc ce grand savant grec...
Un savant et un sage.
Voilà, qui donc était un grec, mais qui vivait à l'époque de la domination romaine en Grèce, à un moment donné fait un voyage à la fois diplomatique et scientifique vers l'extrême Occident. Il voulait comprendre ce qui se passait. Il y avait des racontars à Cadix, sur les grandes marées, enfin des récits, oui, absolument abracadabrants, des on-dit sur le soleil qui doublait de volume en se couchant. Voilà, il voulait, en tant que savant, essayer de comprendre tout cela et peut-être de corriger. Et il s'est arrêté dans le sud de la France, on le sait, on sait qu'il a fait escale à Marseille, probablement aussi à Narbonne, même si ce n'est pas absolument sûr. Et donc, il a recueilli des informations à cet endroit-là. Alors, ce voyage a eu lieu au début du 1er siècle, donc dans les années 90, entre 90 et 100 avant Jésus-Christ.
Une centaine d'années, non, 200 ans presque. Non,
à peine, moins de 10 ans après, parce qu'on est en 106, le pillage du trésor de Toulouse.
Oui.
Lui, il voyage un petit peu après 100, mais on est avant notre ère, donc oui, voilà, on prend les chiffres à l'envers. D'accord. Et donc, c'est à peine quelques années après. Mm-hmm. Donc, et il a alors certains ont imaginé qu'il s'était rendu à Toulouse, ça me paraît absolument improbable, mais il a pu consulter des témoins quasiment directs qui lui ont livré leur récit de ce qui s'était passé. Et ça intéressait beaucoup de monde, y compris à Rome, parce que
j'allais vous dire, les Romains n'en avaient pas écrit là-dessus. Peut-être alors, pas très fiers.
C'est plus compliqué. Alors, en fait, il faut une chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que piller une ville qu'on a conquis, c'était absolument normal. Oui. Absolument, et j'allais dire même légitime. D'autant plus que, pourquoi est-ce que les Romains, à cette date, donc l'année 106, ont attaqué Toulouse, c'est que Toulouse, qui auparavant était une alliée, avait noué un traité.
Toulouse d'alliance.
Toulouse avait trahi. Pourquoi trahi ? Parce que des peuples du nord de l'Europe déferlaient sur le sud de l'Europe, menaçaient Rome, et les Toulousains, à ce moment-là,
se sont mis du côté des plus forts.
De ce qu'ils croyaient être les plus forts. Ils étaient persuadés que ces Cimbres et ces Teutons, c'était leur nom, allaient écraser les armées romaines. C'était des centaines de milliers d'hommes en migration. Et ils ont fait le mauvais choix. Et donc,
parce qu'ils sont revenus.
Rome a envoyé un des consuls de l'année 106, Caepio, un certain Caepio, qui effectivement a pris très rapidement, très facilement la ville.
Oui, mais avant quand même, j'aimerais vous demander pourquoi les Romains, qui écrivaient, eux, on a des traces quand même, ils n'ont rien écrit là-dessus.
Si, ils ont sûrement écrit, mais ces ouvrages ou ces témoignages sont perdus. Alors, écrit et aussi beaucoup parlé dans le cadre de procès, car ce général romain qui s'est emparé de Toulouse, qui a ramené son butin aussitôt à Rome, l'année suivante, il était alors proconsul, a affronté dans une grande bataille les Cimbres et les Teutons, et il a été vaincu. Et ça a été...
Et mort ou vaincu.
Donc en 105 avant Jésus-Christ, un des plus grands désastres de l'histoire romaine.
Oui.
Alors, on parle de 80 000 morts en une journée.
Oui. Ah, oui.
Un énorme désastre. Lui prend la fuite, hein, donc ce n'est pas glorieux non plus. Il ne meurt pas au milieu de ses hommes. Il prend la fuite avec les quelques rescapés. Et on lui fait un procès à Rome pour cette défaite et ses mauvais choix stratégiques. Mais aussi, de façon accessoire, on l'accuse et on accuse certains de ses officiers d'avoir non pas pillé, ça c'était tout à fait accepté.
Mais d'avoir pillé une partie pour eux.
Voilà, en fait, ce butin, une partie revenait de façon, légale,
légale,
au chef, au général, mais la plus grande partie revenait au trésor de Rome. Donc c'était le but de ce grand convoi, j'allais dire, de richesse. Sauf que, en chemin, des bandits auraient piller le pillage, en gros, attaquer le convoi. Et on a accusé, peut-être pas Caepio, mais certains de ses officiers, d'avoir manigancé cette attaque pour subtiliser une partie du trésor.
D'accord.
Voilà, des affaires très troubles qui font que les Romains se sont beaucoup intéressés à tout cela. Et Posidonius, en fait, c'est le seul témoin dont il nous reste.
Oui, en fait, il n'y a
voilà,
pas...
le récit.
Oui, voilà, on n'a pas de preuves de certaines allégations. Dites-moi, il y a quelque chose, en vous lisant, je me suis dit, mais est-ce que les textes sages écrivaient ?
Alors, encore une question un petit peu difficile à laquelle on peut...
Je suis désolé.
Non, mais c'est une très, très bonne question. Alors, certains, on le sait par César un peu plus tardivement, que certains peuples gaulois avaient des archives écrites, puisqu'il a pu consulter des documents où apparaissaient, disons, les effectifs d'une armée helvète. On a aussi des inscriptions gauloises qui utilisent l'alphabet grec, en Provence en particulier. D'accord. En revanche, on sait très bien que dans la culture gauloise, l'écrit n'était pas, la culture devait être orale. Donc c'était un point très important dans leur tradition, dans leur enseignement, l'entraînement à la mémoire et l'importance de l'oralité pour transmettre des connaissances, et en particulier des connaissances qui sont réservées à une élite, les druides par exemple, dans le domaine religieux. Donc il y avait sans doute de l'écrit, mais pas une production littéraire, une production historique comme cela a pu exister évidemment dans le monde grec et romain. Donc des choses très limitées et plutôt de l'ordre de des contes, voilà.
Alors avant de parler de l'or de Tolosa, donc Toulouse, où se trouvait exactement Tolosa? Alors j'ai bien cru comprendre que ce n'était pas exactement l'emplacement de notre ville.
Absolument. Donc déjà on va écarter le site de la Toulouse médiévale et romaine, en gros qui a peu changé, elle s'est étendue, mais la Toulouse actuelle, le centre-ville, le centre historique de Toulouse, est construit sur la ville romaine, pour le dire très simplement.
Ce n'était pas des marécages ?
Non, l'emplacement de la ville romaine, qui est une fondation de l'époque de la fin de l'époque d'Auguste, donc du tout début de notre ère, après Jésus-Christ, au contraire, les Romains ont choisi, les Toulousains de l'époque, ont choisi un espace légèrement surélevé par rapport à la terrasse de la Garonne, donc pas inondable du tout. En revanche, c'est difficile. Il faut peut-être parler de deux grands sites urbains pour la Toulouse gauloise. Et tout de suite, je suis obligé de dire attention aux notions qu'on va utiliser.
Oui. Qu'est-ce qu'on entend par ville ?
Qu'est-ce que c'est qu'une ville à cette époque-là, chez un peuple dont les traditions, l'histoire est tellement différente de ce qu'ensuite va amener Rome. On est encore, nous, aujourd'hui, sur une lignée historique ininterrompue qui nous renvoie à Rome et à la notion de ville méditerranéenne, romaine, etc.
Mais les Romains construisaient en dur. Est-ce que les Gaulois construisaient également en pierre ? Est-ce qu'il est resté...
Alors, très peu. Très peu. C'est une difficulté pour retrouver les restes de la ville. Donc, très peu en pierre, ou quasiment pas, pour le dire plus simplement. Déjà, la notion de ville ne leur correspond pas forcément, en tout cas pas ce que nous, pas avec toutes les caractéristiques de la ville, c'est-à-dire une muraille, une place centrale, des voies bien organisées, un habitat très dense, des secteurs religieux, des secteurs publics liés à la vie politique, etc. etc. Et les secteurs... Alors, tout cela existait, mais sous des formes assez différentes. Ce qu'on peut dire, ce qu'on sait en général sur le monde gaulois, c'est qu'il y avait des villes gauloises qui n'avaient pas de fortifications. D'autres en avaient, parfois très puissantes. Les deux solutions existaient. Sur ces sites, il pouvait y avoir... en fait, il n'y a pas de grande densité de population. C'était assez... on pouvait avoir un bâtiment entouré d'une parcelle avec jardin et culture, séparé d'autres bâtiments.
Un habitat assez dispersé.
Pas dispersé dans la campagne, mais peu dense. Ce qui fait qu'on est parfois un petit peu... Quand on fait des fouilles sur un espace restreint, entre un coin d'une agglomération en quelque sorte, mais très... très lâche, et une ferme, quand on n'a pas la vision globale, difficile de savoir si c'est une ferme à la campagne, en quelque sorte, ou bien une partie d'une ville très, très, très diffuse, si vous voulez. Donc, c'est un peu ce qu'on a au sud de Toulouse. Donc, dans les quartiers, en gros, on a un grand établissement, une grande agglomération dans le sud de Toulouse, pour donner un petit peu les repères actuels. Au nord, ça serait limité par le boulevard des Récollets. Au sud, par la Rocade, en gros. À l'ouest, par la rue du Ferretras. Et à l'est, par l'avenue de l'Urse.
Ça, c'était donc l'agglomération la plus importante.
Alors, une grande agglomération qui était avec une fonction de port évidente. Hein, on est sur le port fluvial sur la Garonne.
Donc que vous appelez Saint-Roch.
Alors, les archéologues, pour simplifier, plusieurs noms sont possibles, mais depuis une quinzaine d'années, on s'est mis d'accord pour désigner ce grand site qui fait entre 60 et 80 hectares, donc c'est grand pour cette époque, sous le nom de quartier Saint-Roch, voilà.
D'accord.
Le site de Saint-Roch. Et il y a eu une grande fouille dans les années 2000 sur l'emplacement de la caserne Niel, une fouille très importante qui a duré plusieurs années et qui a livré...
Assez récemment, non, finalement?
Oui, oui. Début année 2000, vers 2005. Oui. Et qui a livré des quantités phénoménales de, par exemple, 100 tonnes d'amphores, de restes d'amphores romaines ou venant d'ailleurs en Méditerranée. Oui. Une centaine de tonnes. Voilà, des milliers de têtes de bétail dans une espèce de boucherie. Enfin, voilà, c'est des choses, quelque chose de vraiment important. Mais ce n'est pas le seul site. Et c'est là que la difficulté commence pour les archéologues. On a à peine 4 ou 5 kilomètres au sud de Toulouse, donc dominant la Garonne, près du village actuel de Vieille-Toulouse. Et en gros, pour ceux qui connaissent ce secteur, en gros, sous le golfe de Vieille-Toulouse. Mais ça dépasse...
En hauteur.
En hauteur, sur le coteau, mais ça déborde les limites du golfe. Un autre grand établissement, assez comparable au premier, sauf qu'il est en hauteur. Il était peut-être... probablement fortifié, mais les modalités de ces défenses ne sont pas encore bien identifiées. Donc peut-être, alors deux sites très proches et importants, c'est compliqué à comprendre. Est-ce qu'il y avait une subordination entre l'un et l'autre, mais dans quel sens, c'est pas facile. Est-ce que c'était deux villes indépendantes impossible, elles sont trop proches.
Trop proches, oui.
Mais voilà, une répartition des rôles, des fonctions qu'on va appeler nous les fonctions urbaines, entre ces deux sites, le port, très clairement, la fonction économique, elle avait pour centre principal le quartier Saint-Roch, c'est évident. Peut-être que les fonctions plus de défense étaient regroupées comme un site de refuge, entre autres, sur le site de Vieille-Toulouse. En tout cas, autre donnée très importante, c'est qu'à la suite de ce pillage, de la prise de la ville et de sans doute le meurtre de nombreux habitants, on constate, l'archéologie constate, que le site de Saint-Roch va être abandonné très vite, dès le début, dès les années qui suivent. Donc ce site ne fonctionne plus, est complètement abandonné, alors que le site de Vieille-Toulouse devient, alors là, sous domination romaine, la ville, disons gauloise, mais dans un cadre romain, pendant un siècle, tout le premier siècle, avant la fondation de la ville romaine. Donc on a en fait trois moments.
Alors Pierre Mauret, je vais vous poser une question bête. Comment, puisqu'on n'a pas de vestiges de maisons, de construction, d'habitat, comment peut-on savoir que Saint-Roch a disparu et que Vieille-Toulouse a continué?
Alors, il faut revenir d'abord avant de revenir sur l'habitat, on trouve beaucoup d'objets. On a peu de structures d'habitat, mais on a des quantités faramineuses d'objets.
Ils sont datés ?
On peut les dater. C'est une des tâches de l'archéologue de la longue formation que doivent suivre les archéologues pour arriver à dater des objets qui peuvent être des fibules, donc des épingles à nourrice de l'époque, qui peuvent être des vases en céramique, qui peuvent être des petits objets en fer, en bronze, etc. Donc on sait que telle production, tel type d'amphore qui vient de telle région, en Sicile ou en Italie, eh bien sa production s'arrête à telle année. Et donc, si on la trouve, on a une série de repères, comme ça. Et alors, l'habitat, donc, effectivement, je vous avais dit tout à l'heure qu'on n'a pas de bâtiment en dur, entre guillemets, c'est-à-dire de bâtiment en pierre ou avec du ciment.
Et le bois a disparu.
Voilà, le bois a disparu, mais on a se conserve. Alors, difficile à repérer, mais les archéologues sont expérimentés, il y en a beaucoup à Toulouse, arrivent parfaitement à repérer ces traces extrêmement fines. Eh bien, on arrive à repérer des fondations, des creusements dans le sol où étaient logées des poutres qui soutenaient une armature en bois pour une maison. Et comme le terrain était plutôt humide dans le quartier Saint-Roch, eh bien, les Gaulois utilisaient des quantités faramineuses de débris d'amphores pour assainir le sol. Donc, ils mettaient une couche de fragments de poterie qui servaient de lit d'assainissement. Et donc, parfois, c'est cette couche de fragments de poterie nous délimite parfaitement le plan d'une maison.
D'accord. Voilà.
Et on peut avoir aussi des trous de poteaux, hein, où on plantait les poteaux pour faire tenir les bâtiments.
Une question, je pense à une cité lacustre, par exemple, au lac de Paladru, une belle cité lacustre. Pourquoi ça s'est maintenu, ça résistait, c'était du bois, et pourquoi là, tout disparaît?
Alors, dans les sites lacustres et aussi dans les sites où le sol est extrêmement humide, le bois se conserve quand il est en condition qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire sans aucun contact avec l'atmosphère.
Enfoncé,
donc, il n'y a pas d'agents microbiens ou autres qui vont attaquer la structure organique du bois. Donc, c'est l'eau, en quelque sorte, qui va maintenir le bois dans un milieu... Enfin, il n'y aura pas d'attaque, ni de moisissure, ni de micro-organismes divers.
Alors Pierre Moret, je vous propose une pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Alors je reprends mon entretien avec Pierre Moret, venu nous parler de L'or de Tolosa, un ouvrage paru aux éditions de Midi Pyrénéenne, dans la collection cette année-là, à Toulouse. Il s'agit de Main basse sur l'or de Tolosa. Donc on a parlé de Tolosa qui n'était pas en fait Toulouse actuelle, qui s'est niché au près de tout près de la Garonne, au bord de la Garonne, au niveau du gué, non, je crois.
Hein. Alors, le gué le plus important, le gué du Bazac, un peu plus au nord du site gaulois. Voilà, c'est pas vraiment expliqué, mais c'est comme ça.
Oui, mais le gué, oui, ça s'explique quand même, le fait d'avoir
Le fait qu'ils n'aient pas construit leur ville au plus proche, au plus près de ce gué du Bazac, qui est un peu plus au nord. Voilà.
Oui, d'accord.
Et peut-être qu'il y avait des raisons. Alors, religieuses ou autres, et ça nous ramènerait éventuellement à cette question des lieux humides, des lieux marécages ou étangs.
Alors, donc, je rappelle à nos auditeurs que Tolosa se trouvait à deux endroits assez distincts, mais pas très éloignés. Saint-Roch, le quartier de Saint-Roch, qui se trouve à peu près entre, vous me disiez...
L'avenue de l'Urse, la rue du Ferretra, et la caserne Niel au cœur de cette zone.
Et puis, Vieille Toulouse, donc plus en hauteur, mais pas forcément très éloignée. Et alors, il y avait l'or de Toulouse. Est-ce que cet or, les Volk Tectosages en parlaient, eux, de cet or? On ne le sait pas.
On n'en sait rien.
On n'en sait rien. Parce qu'ils amassaient finalement.
Ils amassaient beaucoup d'or. Mais, alors là, je pense que c'est important de se référer au texte de ce grand savant Posidonius, dont on a parlé tout à l'heure, parce que quand on lit bien ce texte, c'est assez amusant de voir qu'au début, voilà, il est question de l'or de Tolosa. Et quand. Alors, Posidonius est cité par un autre auteur ancien qui est Strabon, un géographe. Et Strabon, il démarre sur la question de l'or. Puis, en quelque sorte, il va donner un petit peu la parole à Posidonius en le citant, de façon résumée, mais en le citant. Et on voit qu'au fil de cette dizaine de lignes à peine, d'abord, il est question, le trésor consiste non pas en objets travaillés, mais en or et en argent brut. On a de l'or et de l'argent. L'argent apparaît tout d'un coup. Phrase suivante. Les Gaulois déposaient dans les étangs, bon, on parlera ensuite sans doute des étangs, qu'est-ce que ça peut signifier, des poids d'argent ou même d'or. D'abord d'argent, et l'or vient un petit peu en plus avec une petite restriction dans le terme grec. Et puis enfin, troisième phrase, les Romains devenus maîtres des lieux vendirent les étangs au profit de l'État et beaucoup d'acheteurs, donc des gens qui ont acheté des lots pour pouvoir les draguer, ils cherchaient une fortune, ils trouvèrent des meules d'argent martelées. L'or a disparu. Tout d'un coup, on ne parle plus que d'argent. Sous forme, alors c'est curieux, c'est intéressant, il y a une image qu'utilise Posidonius, la forme d'une meule, donc quelque chose de rond sans doute, hein, qui faisait penser à une meule. Et qui était une forme donnée au marteau. Donc l'argent. Et c'est très intéressant parce que ça va à l'encontre des légendes qui circulaient à Rome, et ça rejoint en revanche ce qu'on sait de l'économie tectosage, car on a de plus en plus, et c'est vraiment des données récentes de l'archéologie, de plus en plus d'informations sur des exploitations minières dans les Pyrénées, à cette époque-là, ou même avant, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, où, dans un territoire qui était celui des Tectosages, on exploitait des filons d'argent.
On disait qu'on trouvait de l'or aussi dans certains torrents, non?
Oui, absolument. Ouais. Alors, de l'or alluvial, qui était exploité également, sans doute, par les Tectosages, mais disons que peut-être pas de façon aussi intensive, en tout cas pas pour atteindre des volumes aussi importants que ceux qui sont évoqués par Posidonius.
Alors, pourquoi les Tectosages amassaient, alors on va dire également où évidemment, mais pourquoi faisaient-ils ça? Pourquoi ils ne l'utilisaient pas pour eux? Ce que va d'ailleurs saluer Posidonius, j'ai trouvé
absolument
ça très amusant.
Alors, Posidonius est le premier à se poser cette question. Avant vous, 2000 ans avant vous, il se pose cette question. Pourquoi cet or amassé
qui ne sert à rien.
Qui ne sert à rien et qui n'est même pas protégé. Il est là dans
tout le monde pourrait se servir.
Tout le monde pourrait servir. Il dit bien, il utilise deux termes pour désigner les endroits où l'or était entreposé. Il n'y a pas de temple. Alors, il n'est jamais question d'un temple gaulois où aurait été mis à l'abri cet or.
Excusez-moi, juste un instant. Quelle était leur religion?
Alors, ils étaient polythéistes, ils avaient tout un panthéon dont on connaît une partie parce qu'il s'est maintenu à l'époque romaine avec des adaptations.
Mais il n'y avait pas de, il n'y avait pas de lieu.
Alors, si, il y avait
des sanctuaires.
Mais qui étaient souvent. Alors, on connaît des sanctuaires gaulois dans de nombreuses régions de la Gaule, mais plutôt dans le nord de la Gaule. Et c'est des peuples gaulois assez différents de ceux du sud. Donc, ce qu'on peut. Ce qu'on a identifié dans le bassin parisien ne peut pas forcément être comparé à ce qu'on a, mais en tout cas, les éléments fondamentaux d'un sanctuaire gaulois dédié à un dieu, qu'en général on ne peut pas identifier, mais à un dieu ou à plusieurs dieux, le principe c'est l'enclos. Un enclos, ça peut être une simple palissade et un fossé qui délimite dans le paysage une aire sacrée. Mais il n'y a pas de grand mur, il n'y a pas de grand temple.
Et quand c'est sacré, c'est inviolable.
C'est inviolable, mais on peut rentrer dans l'aire sacrée pour y pratiquer se réunir, pour célébrer de grandes fêtes, pour avoir des banquets, puisqu'on a trouvé dans ces fameux fossés des sanctuaires des quantités de restes d'animaux qui ont été des hécatombes qui ont
et
servi.
Et peut-être se recueillir.
Et se recueillir, mais sous des formes qu'on ne peut pas reconstituer, évidemment. Ouais. Et donc, on a donc, dans le cas de Toulouse, deux espaces. Il parle bien d'enclos. Posidonius, et de lieux humides. C'est un terme grec qu'on peut traduire, qui a un sens plus large que les mots qui s'en rapprochent en français.
C'est un peu compliqué
C'est un peu compliqué,
préciser.
Parce que ce mot, c'est l'hymné. D'ailleurs, de l'hymné qui a donné l'hymnologie à toutes en français savant. Eh bien, ça peut, selon le contexte, ça peut être un marécage, ça peut être une lagune maritime, ça peut être
un
étang, j'allais dire tout simple, une mare. C'est l'idée d'eau stagnante. Voilà. C'est toute eau stagnante, toute eau morte qui est laissée à l'état naturel.
L'hymné. Et vous réfutez totalement l'idée que ce soit un puits.
C'est impossible. Pour une raison, alors à la fois à cause du sens du terme, mais aussi pour une raison toute simple, c'est que Posidonius nous dit que les Romains vendirent des lots à des particuliers pour que ceux-ci puissent y chercher ces fameuses meules d'argent. Donc il y a une espèce d'adjudication publique avec un terrain sans doute assez vaste qu'on va diviser de façon très systématique à la romaine. Et voilà, et des acheteurs vont prendre alors peut-être des lots qui font, je ne sais pas, enfin quelques.
Mais ça aurait pu contenir un prix quand même, des puits dans les lots.
Oui, mais ça aurait été expliqué autrement.
D'accord.
Il y a cette idée du quadrillage dans les lots. De même que les Romains pratiquaient la centuriation de leur champ avec des plans quadrillés, là, on imagine très bien qu'ils ont quadrillé l'espace sacré pour que chaque acheteur puisse, à ses frais, engager des dépenses pour aller y chercher les restes de
voilà. Et vous dites bien dans votre ouvrage que les eaux stagnantes avaient une signification religieuse dans toute la Gaule, quasiment.
Oui, alors ça, c'est parfaitement attesté par l'archéologie. En Gaule, et aussi dans le sud de l'Angleterre, où on a le parallèle le plus intéressant sur un site. Alors, une région où il y avait de fortes influences celtiques, un site qui s'appelle Snetisham, où on a trouvé, dans une aire marécageuse, mais qui maintenant s'est asséché, plein de petits dépôts, dont des petits lingots d'or. Alors, tout petits, mais voilà, c'est à l'échelle d'une petite communauté de cette région.
Un amas beaucoup moins important
beaucoup
que
moins
ce
important,
qui a été
trouvé.
Justement, à un moment donné, on va arriver à ce rapt, à ce qui s'est passé du fait des Romains. Mais ce qui m'a amusé, c'est que Posidonius louait la tempérance, l'austérité, le respect des dieux chez les Tolosates, au contraire de Caesio et ses armées qui étaient que convoitises et impiétées.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Posidonius est un philosophe stoïcien.
Oui,
c'est et ça donc, aussi. Et il a développé des théories, entre autres, sur l'influence du climat et de l'histoire sur les mœurs des peuples. Et donc, un de ses thèmes favoris, c'est d'expliquer la décadence des Romains et des Grecs de son époque. Il est témoin alors, d'une grande décadence de la Grèce, qui a été asservie par Rome, mais aussi à l'époque des guerres civiles, du début des guerres civiles, de ce que lui considère comme une tendance de Rome à aller vers sa décadence. Rome s'est enrichie avec les trésors des grandes cités hellénistiques, des grandes cités grecques. Et, c'est la fin de cette Rome archaïque, celle des premiers Romains, cette république vertueuse. Et donc, en fait, il crée une espèce de jeu de miroir où les impies, hein, les hommes impies, avides d'argent et d'or, ce sont les Romains qui vont piller le sanctuaire de Tolosa. Et les Tolosates, les tectosages, finalement...
Pas intéressés par ces richesses.
Sont vertueux et ressemblent en quelque sorte aux anciens Romains et donnent aux Romains l'image de ce qu'ils avaient été et ce qu'ils n'étaient plus.
Alors qu'en fait, il y avait parmi eux des négociants. Et d'ailleurs, alors, ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est qu'il y avait une alliance entre les Romains et les tectosages négociants, justement.
Alors, il y avait des accords commerciaux. L'intérêt des tectosages, probablement, c'était de favoriser les échanges pour s'enrichir.
Oui.
Ils n'étaient pas aussi vertueux que le prétendait Posidonius, bien sûr. Ça, c'est un effet.
Sans doute pas.
Voilà, il a utilisé ces données pour alimenter ses théories à la fois philosophiques et politiques. Mais, bien sûr, ces négociants italiens, romains et aussi grecs de Marseille s'installaient à Tolosa à leurs risques et périls. À tout moment, le contexte politique pouvait changer, ils pouvaient devenir persona non grata et devoir quitter la ville, voire être spoliés par les Gaulois eux-mêmes. Donc, ce qui se passe... Quand un moment important, c'est la conquête par Rome de la province de Transalpine, c'est-à-dire toute la province et de la côte du Languedoc jusqu'à Narbonne et en fait jusqu'aux Pyrénées. Donc les Romains vont s'emparer et contrôler cette bande côtière dans les années 120 à 118 avant Jésus-Christ, donc 10 ans avant les événements dont on parle. Et ils vont passer alliance avec des peuples qui sont au-delà de ces limites, de leur nouveau territoire.
Donc très loin de chez eux quand même.
Très loin de chez eux. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est important pour les Romains, c'est d'aller en Espagne. Ils ont conquis l'Espagne avant de conquérir la Gaule. Et donc ils avaient besoin de
sécuriser. C'était leur Eldorado.
Oui. Il y avait là aussi beaucoup de richesses métalliques, effectivement, dans le sud de l'Espagne. Et donc, ils avaient besoin de sécuriser la route côtière qui longeait la Méditerranée.
Alors, en tout cas, est arrivé un peuple qui a défait les armées romaines.
Oui, donc c'est les Cimbres et les Teutons.
Qui venaient de loin aussi.
Qui venaient de très loin vers le nord, des rivages de la mer Baltique, du Jutland, vers le Danemark actuel. Et qui donc, voilà, c'est un mouvement de peuple mal connu. Migration qu'on peut peut-être comparer aux migrations de la fin de l'Antiquité. Mais voilà, il y a beaucoup d'inconnus autour de ces migrations. Mais le fait est que ça a été un grand péril pour Rome.
Oui, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été finalement... Ils n'ont pas été rejetés par les tectosages, les Gaulois, sauf les négociants qui regrettaient sans doute le départ des Romains. Alors, donc, les Romains s'en vont, bien obligés. Mais ils vont revenir.
Alors, oui. Et c'est une question un petit peu complexe. Cette idée de pillage en deux temps. Les Romains, avec Caepio, s'emparent du butin.
Mais là ils ne s'étaient pas encore emparés. C'est quand ils reviennent qu'ils vont s'en emparer.
Alors, mon idée, l'hypothèse que j'ai lancée il y a quelques années, pour bien expliquer le texte, c'est qu'il y a eu deux moments.
Ah oui,
deux phases de pillage, en quelque sorte.
Oui.
Parce que je n'arrivais pas à comprendre, et c'est une question qui n'a pas été trop soulignée, mais qui est totalement illogique. La phrase que je vous ai lue tout à l'heure, quand il est question du pouvoir romain qui vend les étangs au profit de l'État, par adjudication, etc. Donc ça, c'est un processus assez compliqué, qui demande du temps, qui demande d'être bien installé.
Oui.
On a des gens qui arrivent de loin pour acheter des lots, qui ne sont pas des guerriers, qui ne sont pas des soldats, des légionnaires. Ce n'est absolument pas envisageable. Au moment où Caepio fait une espèce d'attaque qu'en blitzkrieg, il arrive à toute vitesse sur Toulouse, il châtie Toulouse, il s'empare de la ville, il s'empare du trésor, mais de façon brutale. Hein. Bon, je pense les Russes en Ukraine, quoi, c'est ça. C'est, bon. Et il repart aussitôt. Donc, c'est pas compatible avec cette idée d'adjudication publique, etc. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un premier pillage de ce qui était le plus facile à prendre, ce qui était dans le sanctuaire, dans l'enclos, ce qui était à la vue de tous. Et puis, il restait tout ce qui était immergé dans les, les marécages, dans les étangs. Et pour cela, c'est quand, finalement, quelques années plus tard, en fait, 5 ans plus tard, les Romains ont fini, après une première bataille perdue par Caepio, ont fini par gagner la guerre en écrasant à leur tour les Cimbres et les Teutons.
Et ils ont puni, ils ont voulu punir.
Alors là, ils sont revenus, évidemment, ils ont repris le contrôle de Toulouse qu'ils avaient certainement dû abandonner à nouveau. Quand Caepio est écrasé et perd 80 000 hommes à Orange, c'est la déroute.
Ah oui.
Ils ne peuvent plus. Toulouse disparaît de la carte romaine à ce moment-là. Et donc, c'est seulement 4 ou 5 ans plus tard, quand la situation se retourne en faveur, de Rome, eh bien, qu'ils reprennent pied. Et là, de façon assez systématique, le but de Rome n'est pas d'anéantir Tolosa. Tolosa est une ville importante aussi pour leur économie, mais châtier ceux qui avaient pris le parti, effectivement, des Cimbres.
Alors, il nous reste que 5 minutes, malheureusement, mais on va parler quand même de cette croyance d'une malédiction liée à l'or de Toulouse. Comment vous le voyez? Parce qu'il y a eu cet or, d'où venait-il déjà? Alors on se dit, ah là là, ils ont pu en amasser une somme énorme. La somme, combien? L'équivalent de...
Alors, le chiffre qui est donné par Posidonio, c'est 15 000 talents. Alors, les talents, c'est une mesure de poids grec. Et là, j'avoue que je n'ai pas mon antisèche pour vous dire exactement ce que ça pèse.
Ça fait une grosse somme, on va dire.
Mais on a calculé, en se basant sur une comparaison avec un autre auteur qui évoque lui aussi le trésor de Toulouse, que ces 15 000 talents, ça équivaudrait à 36 tonnes d'argent plus 33 tonnes d'or.
Donc, c'est énorme.
Donc, alors, des dizaines de tonnes d'argent.
Cette malédiction, comment vous l'expliquez?
Alors, je ne l'explique pas, mais on peut comprendre comment la légende s'est créée. Et en fait, Posidonius est le premier à s'être interrogé sur cette légende. Qu'est-ce qui se passe? On est donc, quand Posidonius voyage vers, mettons, en 95 ou avant Jésus-Christ, il a entendu parler à Rome, d'où il vient, quand il fait son voyage vers l'ouest, de l'or de Toulouse. Et tout le monde à Rome, semble-t-il, disait cet or a causé la perte de Caepio parce qu'il était maudit. Déjà maudit, et il venait de Delphes. Maudit parce que c'était l'or d'un sanctuaire grec, d'un sanctuaire non barbare, volé déjà par des Gaulois barbares plus d'un siècle plus tôt, en 279 avant Jésus-Christ. Et alors pourquoi le lien a été fait à Rome entre l'or de Toulouse et l'or de Delphes? Parce que dans l'expédition qui, en 279 avant Jésus-Christ, avec un énorme conditionnel, emparé de l'or de Delphes, il y avait des tectosages. Peut-être ceux de Toulouse, on n'en sait rien, parce que ce nom a pu être porté par d'autres peuples. Et donc, le lien était facile à faire. En gros, des tectosages de Toulouse s'emparent de l'or d'Apollon, des dieux grecs. Donc ça, c'est choquant pour un grec.
Bien sûr.
Le ramène à Toulouse, Caepio arrive 2 siècles plus tard, s'empare à son tour de l'or sans se rendre compte qu'il est maudit et il est du coup lui-même victime de toutes sortes d'avanies.
Voilà, les Gaulois ont été punis d'avoir volé l'or de Delphes, Caepio va être puni puisqu'il va l'avoir en procès, alors, il va être ruiné.
Il est ruiné, il est banni, et il est même condamné à mort et finalement pas exécuté, semble-t-il. Mais sa vie est sa vie politique est absolument finie. Mais Posidonius, le premier, dit tout ça, c'est n'importe quoi. Et alors, il déroule un argumentaire pour dire non, c'est pas possible. Et là, en savant, c'est plus le philosophe, c'est le savant.
C'est dommage.
Bah, heureusement qu'on a ce fragment de Posidonius, sinon on serait encore
à épiloguer oui.
là-dessus. Alors, je ne vais pas résumer tous ces arguments, mais parce qu'il nous reste peu de temps.
Oui.
Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a oublié un argument, l'argument massue, c'est que on sait par d'autres auteurs grecs que les Gaulois de l'expédition contre Delphes se sont arrêtés avant le sanctuaire. Ils ont été battus par des Grecs. Ça colle pas. Ils n'ont jamais pillé le sanctuaire. Voilà.
Voilà, mais voilà. Alors, on ne sait pas tout à fait tout, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dont on n'a pas eu le temps de parler. Ce qui m'a fait sourire également, c'est de savoir que finalement, même avec cette histoire de procès de Caesio, je ne sais pas si on prononce ainsi, il y a eu également des problèmes politiques.
Oui.
Autre malédiction.
Bien sûr, oui.
Puisqu'il était soutenu par l'aristocratie sénatoriale, tandis que le Parti populaire décrétait que c'était un voleur, un incompétent, puisqu'il avait fait tuer, vous avez dit, 80 000 hommes.
Oui. Effectivement, en fait, c'est parce qu'il y a eu tous ces débats politiques autour de ce personnage qui était très en vue, qui était du parti conservateur de l'époque, que la légende, finalement, a pris forme très vite. Cette légende noire, qui a sûrement été à l'instigation des ennemis politiques de Caepio, qui ont eu à cœur de montrer toutes ces turpitudes.
Oui.
Mais c'est resté. Et après, on a oublié que... Et finalement, Posidonius, qui avait tout démontré parfaitement, c'est pas possible. Les Gaulois avaient leur or et leur argent surtout, qu'ils savaient exploiter chez eux. Les Gaulois n'étaient jamais revenus peut-être de Delphes. Peu importe, ça a été oublié. Et seule est restée la légende, qui reste jusqu'à Chateaubriand. Il y a une citation de Chateaubriand très belle. Chateaubriand avait une très grande culture antique. Et il existait un dicton romain qui parlait « Ah, mais j'ai l'or de Toulouse », ça veut dire « j'ai la poisse
». «
J'ai l'or de Toulouse »,« aurum tolosanum ». Et il y a un passage des Mémoires d'Outre-Tombe où Chateaubriand dit « Moi aussi, j'ai l'or de Toulouse ». Voilà. Alors, ces lecteurs d'aujourd'hui, je pense que...
Ah, vous voyez, on va rester sur cette légende. Vous savez que vous feriez très plaisir à Jean d'Ormesson, qui est venu à votre place à 7 reprises et qui adorait Chateaubriand. Merci de citer Chateaubriand.
C'est moi qui vous remercie.
Et en tout cas, merci de nous apporter vos connaissances. Je dirais à nos auditeurs qu'il s'agit de « Main basse sur l'or de Tolosa » par Pierre Moret, dans la collection édition Midi-Pyrénéenne. En fait, c'est un petit ouvrage de 6,80 €, je le dis pour nos auditeurs, parce que c'est vraiment pas ruineux, mais on sait beaucoup de choses et avec une lecture toujours très agréable et beaucoup d'informations. Un grand merci, au revoir.
Merci à vous.